Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Kouai aux membres du peuple Wabanaki qui nous écoutent. Salut, je me présente Louis-Philippe Renaud. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime la vie. Plus j'apprends à la découvrir, plus je suis touché par sa beauté, par sa fragilité. Je réalise ce balado parce que j'ai envie d'aller à la rencontre de personnes qui ont le goût, comme moi, d'en prendre soin. Bienvenue à Juste pour vivre. Commençons par souligner que nous sommes ici pour parler de la relation au vivant sur le territoire non cédé de la communauté autochtone Wabanaki. Surtout et tout simplement parce que les Premières Nations ont saisi bien avant nous l'importance de cette relation. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec un philosophe, Philippe Langlois, qui enseigne ici au Cégep de Sherbrooke depuis 2007. C'est un père de famille, c'est un citoyen engagé qui s'intéresse aux questions écologiques depuis assez longtemps, Philippe, je me trompe?
Militant sur les questions de justice sociale depuis peut-être plus longtemps que sur les questions écologiques, mais ouais, au moins depuis, disons, le milieu des années 2010, là, sur les questions écologiques.
Et je commence à te poser la question évidente, pourquoi la philosophie? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la philosophie?
Je me suis toujours dit que je ne savais pas ce que j'allais faire quand j'allais être grand. Je me suis dit ça jusqu'à 25 ans, là, c'est-à-dire après avoir obtenu une maîtrise en philosophie. Fait que la curiosité, d'abord. Une certaine désorientation aussi, tu sais, due à certaines expériences de vie qui ont fait que j'avais des questionnements que rien d'autre pouvait aborder que la philosophie. Donc, voilà.
Puis, tu as-tu trouvé ton compte?
J'ai certainement trouvé mon compte. J'y trouve encore mon compte. On y trouve toujours son compte. Ça se renouvelle, ça se renouvelle.
C'est bon, réfléchir. Ça fait du bien. On va en reparler plus tard dans le balado.
Avec plaisir.
Et là, je t'ai invité parce que tu t'intéresses au vivant. Moi, je t'ai vu à quelques reprises comme personne engagée, tant au cégep que dans la rue. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au vivant, toi particulièrement?
Je pense que c'est certaines émotions, certaines expériences. Peut-être d'abord l'émerveillement, puis des sentiments de bien-être, de paix, d'admiration quand j'étais petit. Donc, dans certaines expériences en nature, par exemple, tous les enfants vivent une forme d'émerveillement. Quand ils observent les insectes, des abeilles, quand ils vivent dans la forêt, pour un temps, pour les vacances, tout ça. Fait qu'il y a eu ces épisodes-là, très heureux, de l'enfance. Et puis, est arrivé une sorte d'épisode beaucoup plus, on pourrait dire anxiogène, mais en tout cas des émotions beaucoup plus troublantes, là, comme la peur ou l'indignation, la colère. Lié à la prise de conscience de notre situation écologique plus tard, vraiment plus tard.
Alors, on peut dire que tu étais quelqu'un, un enfant, en tout cas, très connecté à la nature, très sensible.
Oui, mais qui la prenait pour acquise, comme une bonne partie de notre population, puis une bonne partie de notre société, en tout cas, prend encore pour acquise les services, les bienfaits que nous apporte la nature. Mais en prenant conscience que tout ça était en train de disparaître, que la nature hospitalière, que la nature amie que j'avais connue dans mon enfance allait se transformer fort probablement en nature beaucoup plus hostile, beaucoup plus difficile, beaucoup plus sévère. Ça a été un choc, je te dirais, mais beaucoup plus tard, là, dans la trentaine.
Je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge, là.
T'as l'air de moi.
C'est ça.
On a un peu plus
mais
grand.
Moi, j'aurais aimé ça, moi, avoir accès au dictionnaire des écomotions quand ça a commencé. Je sais pas toi, mais je me sentais déphasé, démuni. Ça a été le sommet de Johannesburg, là, en 2003, je pense, 2002, 2003. Je lisais le reportage du Devoir. J'en vivais des deuils, comme, tu sais, mais... Je me sentais mal, déshabilité, on aurait dit, à vivre ça.
Oui, il y a de l'impuissance. Il y a un mot pour parler de ça, la solastalgie. Espèce de grande tristesse qu'on peut ressentir à l'idée qu'on va perdre quelque chose d'une très, très grande valeur. Puis cette tristesse-là s'est mêlée au début avec de la peur. Pour moi, ça a été les premiers articles dans des quotidiens que je lisais là, sur la sixième extinction de masse. Ça m'a vraiment alerté. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? T'sais, c'est comme fou. Ensuite, ça a été la crise des abeilles aussi, toutes les biocides néonicotinoïdes, la complaisance de Santé Canada là-dessus. Et puis oui, cette tristesse-là, c'est une émotion sur laquelle moi j'aime beaucoup travailler avec les étudiants, avec mes étudiants et mes étudiantes. Mais c'est une émotion qui est un peu un refuge pour moi. À chaque fois que je me reconnecte à ce deuil de perdre le vivant, je me sens au plus proche je me sens fidèle à quelque chose de sacré, je te dirais. Puis on est vraiment dans... Peut-être on est à une époque où la tristesse, c'est l'émotion qui nous donne un accès le plus simple puis le plus vrai à quelque chose de sacré, en tout cas en relation avec la nature.
Si tu n'étais pas triste, à ce moment-là, est-ce que tu serais vivant? Dans le sens, est-ce que si c'est notre émotion de tristesse qui est là, qui est présent et qu'on la refoule, est-ce que quelque part, il y a quelque chose qu'on tue même de vivant en nous?
C'est sûr qu'on s'endurcit dans une société, en tout cas moi c'est mon sentiment, dans une société qui nous emporte dans un rythme qui nous empêche peut-être de penser au vivant, de nous préoccuper de cette partie-là de nous qui tient à cette communauté d'appartenance, qui tient à cette identité, tu sais, de pouvoir... Parce que pour moi, le vivant, c'est ça, c'est une partie de moi que je suis en train de perdre. Mm-hmm. C'est une communauté d'appartenance, c'est une communauté qui est ce qui rend la vie belle, tu sais. C'est pas un autre, le vivant, c'est moi, puis c'est moi qui fais partie du vivant, tu sais.
Ah ouais.
Donc, de perdre ce contact-là, oui, c'est s'aliéner une partie de nous-mêmes, je pense. Puis il y a beaucoup de choses dans notre quotidien qui nous imposent de ne pas penser à ça tout le temps parce qu'on mourrait de tristesse. Mais oui, c'est ça.
Merci. C'est rare, je l'entends, ça, Philippe. C'est gentil de nous offrir ça. Oui, vraiment.
Mais on peut aller plus loin parce qu'il y en a beaucoup, des émotions autour de la crise environnementale. On entend beaucoup parler d'éco-anxiété. Moi, je travaille avec des jeunes adultes qui ont un grand besoin d'expression, un grand besoin de reconnaissance d'émotions écologiques. Mais il y a aussi de la colère, il y a aussi de l'indignation, il y a de l'émerveillement, il y a de l'amour. C'est un mélange qui peut ou non être orienté d'une manière qui engage à l'action, qui engage au respect de la nature, du vivant,
ouais.
Ou qui, au contraire, nous amène dans des pistes d'autoprotection comme l'indifférence, le cynisme, le négationnisme. T'sais.
Moi, je suis curieux. Comment ça se traduit en classe? Tes émotions, les élèves doivent avoir... Doivent se situer chacun dans une gamme d'émotions. C'est pas uniforme. Toi, tes vies. Comment on vit ça, tout le monde, ensemble, quand on aborde des sujets, justement, liés au deuil, à la seule nostalgie et autres? Là, comment?
Ça peut juste se vivre de manière contradictoire.
Okay.
Tout le monde est en contradiction avec lui-même. Parce qu'on est tellement impuissant d'un côté, mais tellement enragé de l'autre, par exemple. Mm. La colère, la rage de Greta Thunberg, mettons. Je pense à un étudiant qui était... moi, j'essaie, au premier cours de la session, dans le cours en environnement que je donne au cégep, j'essaie de connecter les étudiants à leurs propres émotions, en leur posant des questions bien générales, comme où est-ce que tu te situes personnellement dans la crise écologique? Comment tu vois ton rapport à la crise écologique aujourd'hui. Puis là sortent les choses. Fait que j'ai un étudiant, Colin, qui était tellement enragé dès le départ qu'il disait, moi, j'ai envie de kidnapper des lui, il est vraiment de... Il est arrivé en classe avec la conviction que la crise écologique était une crise du capitalisme. Fait qu'il dit, j'ai juste envie de kidnapper des ultra-riches puis leur faire une prise de conscience au moins 24 heures de ce qui se passe, t'sais. Mais d'un autre côté, cet étudiant-là se disait aussi super fataliste. On changera rien, on réussira rien. Fait que là, c'est super contradictoire parce que d'un côté, tu veux avoir recours à des moyens d'action quand même assez extrêmes, kidnapper une personne, D'un autre côté, tu penses que ça ne donnera rien. Fait que c'est de ramener ces contradictions-là, dans le fond, dans la conscience des étudiants, puis de les amener à voir, bien, OK, c'est quoi le portrait, c'est quoi les connaissances, la compréhension de la crise qu'on peut développer. Est-ce qu'on peut faire des liens? Est-ce qu'on peut faire communauté autour de nos émotions écologiques? Est-ce qu'on peut faire orienter cette communauté-là vers une action qui a du sens, qui nous permet de nous reconnaître comme personnes dans un certain nombre d'amitiés, dans un certain nombre de projets qui donnent du sens à notre génération?
Quand j'étais travailleur de rue, je découvrais un peu assez rapidement là, que les personnes, au final, quand on réussissait à les accueillir dans ce qu'ils vivaient ici et maintenant, dans ce qui était vraiment le plus important pour eux, il y avait quelque chose qui se dégageait, qui était qu'il allait passer à autre chose. Est-ce qu'on peut dire la même chose de ces étudiants-là qui, au final, si on ne les accueille pas là où est-ce qu'ils se situent dans ce qu'ils sont, ils restent pris là-dedans puis ils ne se permettent pas justement de passer à la prochaine étape, qui est peut-être de vivre une nouvelle émotion, de passer à une action, je ne sais quoi?
Mais il y a différents besoins, tu sais, il y a des besoins, ça c'est ma lecture là, comme prof, dans la génération de mes étudiants, il y a un besoin de connaissance, il y a un besoin de compréhension, c'est tellement des enjeux complexes, les enjeux écologiques, il y a des discours aussi qui sont très diversifiés et qui se contredisent entre eux, tu sais, le capitalisme vert d'un côté, le technosolutionnisme, puis à l'autre extrême, ben, tu as des discours super révolutionnaires, de décroissance urgente, bon, fait qu'il y a un besoin de se situer dans la masse des connaissances, c'est technique. Il y a des sciences du climat qu'il faut comprendre les rudiments. Heureusement, on a des bonnes vulgarisations, tu sais, qui sont disponibles. Mais au-delà du besoin de connaissances, parce qu'on peut établir un rapport comme prof avec sa classe qui est simplement d'enseigner des connaissances, tu sais, des savoirs, au-delà de ça, c'est une crise existentielle.
Vraiment.
Puis le privilège que j'ai, c'est d'enseigner la philosophie et non pas tu sais, la biologie, par exemple. Fait que je pense que c'est un peu l'opportunité que j'ai de travailler sur, OK, ben, comme personne, comme membre d'une société, comme témoin d'une époque, comment on se situe par rapport à ça? Puis ça pose des questions que quand on réussit à avoir les petits moments magiques qu'on peut avoir des fois en enseignement, les étudiants s'engagent, acceptent de s'engager là-dedans. Par contre, il y en a qui non, embarqueront pas.
Ah ouais.
Parce que c'est extrêmement confrontant pour plein de raisons personnelles.
Oui, mais c'est fou, tu dis, tu abordes la crise dès le premier cours. Il y en a pour qui, des parents ou autres, en général, on n'ose même pas l'aborder parce que ça nous crée de l'anxiété, on ne sait pas comment l'aborder. Puis toi, tu le lances de face. Est-ce que tu as l'impression que ça leur permet de se dégager de quelque chose? Un adulte qui assume. Est-ce que tu sens ça des fois, ce commentaire-là, est-ce qu'on te le dit?
Définitivement.
Oui.
Un nombre important de mes groupes, la dernière fois où j'ai donné le cours, un nombre important d'étudiants et d'étudiantes revenaient en classe en disant à chaque semaine, je capote. Parce qu'à chaque semaine, on vient ici, on parle de ça. Je sors, je m'en vais en reparler avec mes amis, avec mes parents à table. Puis les gens sont comme pas vraiment mobilisés, sont indifférents. Ou peut-être même j'ai l'impression que je les dérange parce que j'amène des questions trop graves, tu sais, au souper. Fait que les gens, les étudiants constatent cette espèce d'écart entre l'espace de la classe puis l'espace social, où ils affirment, tu sais, ils disent à quel point c'est précieux d'avoir un espace où on peut comme vraiment librement parler de ces choses-là, comme ton podcast.
Hey, c'est magnifique. Je suis content. Je m'attendais pas à entendre tout ça quand tu m'en as parlé. Puis eux, mettons, si tu nous parlais de tout ce qu'eux amènent en classe, dans qu'est-ce qu'eux ont envie d'amener ou que tu rencontres souvent comme propos, comme tu parlais du jeune qui amenait ses émotions. Ça m'a, est-ce quelque chose qui revient souvent comme...
Plusieurs se sont radicalisés dans le cours. Donc, il y a peut-être une mauvaise presse à l'écologisme aujourd'hui, au sens où il y a une confrontation, il y a une contradiction frontale entre les impératifs, disons, de conservation, les impératifs d'atténuation puis de mitigation des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et d'autre part, les impératifs économiques, là, tu sais, de croissance. Puis tous les étudiants la connaissent, l'ont entendu au moins être nommé, cette contradiction-là, mais ils ne savent pas quoi en faire parce que l'espace pour en discuter n'existe pas, puis l'espace pour la réfléchir n'existe pas.
Attends, on ne vit pas dans une démocratie? Je suis un peu cynique, là, je m'excuse. Là.
Mais c'est un tabou. Ça, c'est encore un tabou. Dans certains cercles, dans nos chambres d'écho, peut-être de gens qui sont allés à l'université, peut-être que ça ne l'est pas, mais c'est encore un tabou de nommer la crise écologique comme étant une crise du modèle de production, de la civilisation, mettons, on peut dire thermo-industrielle ou du capitalisme fossile. Puis les étudiants et les étudiantes, quand on ouvre les valves, puis tu sais, je les laisse librement explorer. Choisis-toi un essai que tu vas lire puis tu vas présenter à la classe à un moment donné au milieu de la session. Fait qu'ils choisissent eux-mêmes. Il y en a qui travaillent sur l'alimentation écologique. Il y en a qui travaillent sur l'énergie. Il y en a qui... Puis beaucoup, puis il y a des cercles de discussion que j'essaie de créer, tu sais, des tables rondes. Puis finalement, en discutant, en échangeant, ben il y a de la radicalité qui s'installe. Mais c'est une bonne radicalité.
Au fond, une radicalité, c'est pas une forme de refus d'abdiquer. Il n'y a pas un peu de ça là-dedans, simplement, dans la radicalité, de dire « OK, ben moi, j'en marque pas dans cette masse qui avance, qui va là où est-ce que ça n'a pas de sens pour ces jeunes-là. » Ça se peut-tu?
Là, tu touches comme à un nœud puis une limite que moi, j'ai pas encore réussi à franchir absolument, au sens où faire le constat des contradictions,
ouais.
C'est une étape. Trouver comment orienter l'action, c'en est une autre. Fait que s'engager à lutter d'une manière qui a du sens, sur des projets qui ont du sens, ça c'est deux choses différentes. Fait que, tu sais, ta question, est-ce qu'ils refusent d'abdiquer, les étudiants,
J'associe refuser d'abdiquer à radicalité. C'est plus ça que j'essaie de faire, de dire, est-ce qu'on est radical ou quelque part, on refuse d'entrer dans cette...
Mais il y a d'abord refusé de croire. Refuser l'insupportable rondeur de l'idéologie qui nous dit qu'on va résoudre, par exemple, les trucs avec une nouvelle innovation technologique.
Voiture électrique.
Par exemple. Tu sais, puis c'est là où les émotions sont super importantes, tu sais, parce que les affects, c'est ce qui nous connecte avec la contradiction. C'est ce qui nous connecte avec le fait que quelque chose cloche. C'est pas pour rien que j'ai de la rage. C'est pas pour rien que j'ai de l'indignation. C'est pas pour rien que j'ai de la tristesse ou que j'ai un sentiment de deuil. C'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis ce quelque chose qui marche pas là, il est intimement personnel, il est vraiment dans l'émotion. Puis c'est la déchirure dans l'idéologie. C'est la première chose qui fait que l'idéologie clignote, t'sais, qu'elle nous aveugle pas comme une lumière... constante, aveuglante, trop vraie, qui nous empêche de penser en dehors de l'idéologie. Mais l'émotion nous permet de rompre le charme. Fait que c'est super important pour le travail, pour que le travail soit productif, tu sais, en classe, de mettre les émotions au cœur de la réflexion.
J'aimerais ça, juste, je vais en profiter pleinement, contradiction, des émotions contradictoires. C'est pour, quand tu vas là-dedans, c'est quoi? C'est pour amener un mouvement? Veux-tu juste nous en dire plus? Moi, je trouve ça, il y a quelque chose là-dedans que j'ai l'impression que je perds un peu encore. Là. Je ne suis pas sûr que c'est aussi clair que dans ta tête.
C'est pour amener un engagement personnel. C'est trop facile dans une classe de 30 de te mettre sur le cruise control, puis d'écouter le prof, puis d'écouter les autres intervenants, les autres étudiants intervenir. Pour que chacun se sente concerné, pour que chacune fasse son petit bout de chemin à partir de là où il est, hein, parce que chacun n'arrive pas avec les mêmes dispositions, les mêmes valeurs, la même culture, le même bagage, les mêmes expériences en classe. Ouais. Au jour 1 de la session, chacun est différent. Mais le but, c'est que chacun s'engage à cheminer, pas juste à prendre les connaissances comme quelque chose d'extérieur à lui, mais à prendre les connaissances comme quelque chose qui va le transformer.
Tu pars... vraiment de la personne, c'est magnifique.
Mais c'est parce que je fais le pari que sur ce sujet-là, ouais. Il y a un besoin de transformation. Puis à date, mon expérience m'a donné raison. Sur les questions écologiques, c'est trop grave. Ça habite cette génération-là. C'est le combat de leur génération. Tu sais, des gens qui sont nés après 2000, disons.
Ouais.
Greta Thunberg en est le symbole, mais ils sont tous là, tous et toutes là-dedans. Puis, et donc, ils veulent avoir cet espace de pouvoir essayer de trouver un chemin pour être plus fidèles à ce qu'ils sentent, mais qui n'ont pas encore nécessairement opérationnalisé, mettons, dans une vie concrète. Là.
Mm-hmm. Et je lisais un article récemment où est-ce qu'il y avait une chroniqueuse qui disait, au final, est-ce qu'on est face à un monde politique qui est soit ignorant, parce que les solutions généralement climatiques, la biodiversité, que ce soit le GIEC ou l'IPBEC, là, ils ont donné pas mal toutes les solutions. Les solutions sont sur la table. Alors, ou nos gouvernements ne le savent pas, ou quelque part, il y a beaucoup de mauvaise foi. Je vais prendre l'exemple de la voiture électrique. Dans, je pense que c'est 24 heures, il y a eu un article là-dessus, justement. Non, dans le journal Pivot, hier. Je ne sais pas si tu l'as vu, il y avait un article qui disait à quel point que c'est une lubie. C'est penser que la voiture électrique est la solution à réduire les gaz à effet de serre, ça ne fonctionne pas. Si tu fais juste électrifier les transports des États-Unis, de tous les Américains, je veux dire, tu vas mobiliser l'ensemble des ressources par X années. Il y a quelque chose de déconnecté du réel. Alors, quand tu es étudiant, tu vois que cette espèce de haut d'ignorance ou de mauvaise foi-là, il y a quelque chose qui doit être adressé, non? Parce que sinon, ça crée du cynisme, ça crée je ne sais quoi, mais ça crée de la rage. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait vivre la rage. J'essaie de trouver des chemins pour passer, mais c'est pas évident.
Mais il y a un besoin de dépasser ce cynisme-là, ça, c'est sûr. Il y a des fausses solutions, mais c'est pas tout le monde qui adhère d'emblée à l'idée que c'est des fausses solutions. Les gens y croient, je pense, à divers degrés, ils croient authentiquement. Sauf qu'il y a moyen d'essayer justement d'en faire un objet de discussion. Puis après ça, comme prof, tu as une position particulière, surtout quand tu arrives avec des convictions, comment je dirais, des engagements militants.
Ouais.
C'est délicat parce que tu peux susciter deux types de réactions. Une réaction d'identification. Tu as des étudiants qui veulent être comme toi ou qui sont d'accord avec toi puis sont tellement contents d'entendre enfin quelqu'un d'adulte avancer sur leurs intuitions. Ou soit la réaction inverse qui peut aller de je me désengage, je me coupe pour me protéger, pour pas que cet adulte-là m'endoctrine avec ses folies, à carrément l'hostilité, tu sais, une certaine réaction. Une stratégie pour essayer de désamorcer cette dynamique-là, c'est de faire en sorte que le groupe trouve par lui-même dans des interactions entre eux, entre égaux, entre des pairs, des chemins d'échange, d'argumentation. Par exemple, sur la voiture électrique, si tu les mets en discussion dans un groupe de quatre, qui lisent chacun un essai, certains sur l'aménagement urbain, un autre sur les enjeux d'énergie, l'autre sur la technologie verte, puis l'autre sur, le post-capitalisme, les quatre ensemble vont échanger des arguments qui vont les amener, à créer des liens d'amitié et à remettre en question, au moins à douter de leur propre biais. Oui.
Je voyais que tu sortais ton livre. T'as-tu envie de nous partager un petit quelque chose?
J'essaie de le rattacher à... Parce que hier soir, avant de me coucher, je lisais un petit livre d'Andreas Malm qui évoque le fait que, je vais le lire, 44 personnes en 2017, officiellement, dans les registres officiels dans le monde, ont hérité de plus d'un milliard de dollars chacune pour une somme totale de 189 milliards. Et, en contrepartie, les quatre plus gros fonds de financement pour l'adaptation aux effets des changements climatiques dans le monde ont approuvé des projets, toujours en 2017, qui s'élèvent à 2,78 milliards seulement. Autrement dit, il y a 44 personnes dans le monde qui ont empoché sans rien faire, 68 fois plus que l'ensemble des victimes des catastrophes climatiques dans le monde. Fait que, tu sais, on parlait de contradiction tantôt. Ça, c'est pas une contradiction, c'est une contradiction factuelle. Que 44 personnes possèdent 68 fois plus que toutes les victimes des changements climatiques dans le monde pour s'adapter puis pour survivre, c'est une contradiction parce que le moindrement qu'on accorde d'importance à l'égalité, à l'idéal d'égalité, c'est une contradiction. Mais ça c'est le genre de données qui fait bouger la réflexion, t'sais, qui permet de faire bouger la réflexion en disant « OK, puis pourquoi? » Parce que ça crée un sentiment d'indignation. Il y a quelque chose qui cloche, là. Fait que là, tu parlais des États, peut-être de mauvaise foi ou des États
qui... Les politiciens ou les gens qui ont à faire des choix politiques qui influencent tout le monde et qui choisissent la voiture électrique plutôt que la mobilité, le transport interurbain. Ou
plutôt que de prendre l'argent qu'il faut pour la transition écologique là où elle est, et de redistribuer les richesses, les risques, de penser en termes de justice écologique. C'est pas clair que... Attends, comment je vais le dire? Il y a différentes... Tu sais, dans ce même livre-là, Andreas Malm, le livre s'appelle « Comment saboter un pipeline », c'est un titre provocateur. Le livre est assez provocateur aussi. Il fait une histoire des vagues de l'écologisme depuis le début des années 2000. Puis une des choses qui monte, c'est que la dernière vague, ce que lui il voit comme la dernière vague, 2018-2019, avec les Vendredi pour l'avenir,
ouais.
Extinction Rébellion, Ende Gelände en Allemagne, ces grands mouvements-là sont de plus en plus radicaux, au sens où ils font de la désobéissance civile, mais jamais ils vont s'attaquer au bien, d'où le titre du livre « Comment saboter un pipeline ». Le sabotage n'est pas encore une piste d'action qui est acceptée par le mouvement écologique, en tout cas seulement de façon minoritaire. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il montre que la colère monte. Tu sais, pense à Greta quand elle est devant le Forum social mondial, puis elle dit « Les jeunes générations ne vous pardonneront pas si vous ne faites rien. Comment osez-vous encore nous dire que vous faites des choses ?» Le changement s'en vient, que vous le vouliez ou non. Il y a une note de colère puis même de rage là-dedans qui démasque finalement l'inaction, la passivité des gouvernements, l'hypocrisie. Puis c'est ce qu'on voit dans la jeune génération, c'est que là, en ce moment, peut-être qu'on n'est pas en 2024 dans une grande vague de mobilisation écologique, mais ça va revenir. Ça va revenir parce qu'on a été ralenti par la pandémie, tout ça, mais ça va revenir. Puis sous quelle forme? Sous quelle forme? Jusqu'où est-ce que les gens vont être patients?
Les gens...
Bien, les jeunes. Les jeunes. Les jeunes à qui on prend la qualité de vie.
Oui. Et de l'autre côté, on a la GRC. Je ne sais pas si tu l'as vu il y a deux, trois semaines. Un document qui a été sorti par des médias qui alertait le gouvernement, qui disait qu'il faut absolument, de manière prioritaire, financer de manière importante tous les services de sécurité au Canada, dont la GRC, parce que les bouleversements climatiques, les enjeux mondiaux qui sont en train de s'opérer, tant au niveau des conflits avec la Russie et autres, va faire en sorte que l'instabilité risque de plus en plus nous coûter cher en termes de paix sociale, etc. Alors, on n'est pas fou là, de penser que ça va arriver. C'est vraiment arrivé, puis nos grandes instances comme la GRC le prédisent même. C'est pas pour rien. Alors, c'est quoi cette espèce de nuage-là qui nous embourbe là, pour pas qu'on le voit? Oui, on veut que c'est anxiogène, on veut se permettre d'être heureux, mais quelque part, de quoi on se prive en l'adressant pas directement?
C'est une bonne question, puis ça me fait penser un peu à la contradiction qu'il y a présentement. Les pays occidentaux qui envoient de l'aide humanitaire par bateau à Gaza, mais qui continuent à fournir des armes par la porte en arrière. T'sais. C'est qu'à un moment donné... on la crée, la catastrophe contre laquelle on essaye d'amener des solutions palliatives minimes. La suggestion de la GRC, elle est légitime parce que évidemment qu'il va y avoir des excès, évidemment qu'il va y avoir de la violence. Protéger les droits, protéger la démocratie, c'est protéger un minimum de paix sociale. On le voit à Haïti en ce moment. Ça prend de l'ordre. Donc oui, ça, il faut se préoccuper de la sécurité, ça, moi je le nierai pas, mais en même temps, ça ne peut qu'être une solution palliative, ça. La solution de fond, c'est de transformer complètement puis c'est très difficile, on est là, transformer complètement notre modèle de développement, même nos attentes comme individus par rapport à c'est quoi une vie bonne.
Ouais, ok, on n'a pas parlé avant l'entrevue, je sors là, de notre...
On est sorti depuis le début, là.
Hey, je m'excuse, hein. Je suis vraiment comme ça. Moi, c'est ma marque de commerçant. J'ai comme l'impression qu'il y a des cultures qui s'affrontent. Il y en a beaucoup qui parlent d'être contre le capitalisme. Le capitalisme serait la source. Mais quelque part, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on adresse mal? Parce que je pense, on va dire Pierre Fitzgibbon. Okay, au Québec, c'est l'image de celui qui va miser sur l'investissement économique, la croissance. Si on va s'en sortir au niveau de la transition socio-écologique, ça va être par les investissements, la technologie et autres. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un choc de culture? Que ce n'est pas juste un choc de manière de rapport de force, mais de culture. Ces gens-là, sont, est-ce qu'ils sont pris entre eux autres dans une espèce de culture qui les empêche d'adresser eux-mêmes le problème comme il faut? T'as-tu pensé à ça?
Bien, chacun est dans sa chambre d'écho, d'une certaine manière. C'est difficile d'en sortir. Bon, il y a toute l'image des portes tournantes, là, dont on parle souvent autour des élites politiques. Portes tournantes avec les lobbyistes, avec les élites économiques. Fait que je sais pas si tu as ça en tête, mais ça, c'est sûr.
Même dans l'art, on a vu ça aujourd'hui, là, de plus en plus. Avec les, je sais pas si tu as vu le reportage là, que les gens de l'élite économique sont même dans nos conseils d'administration des grands conseils des arts et autres. Là.
Ben oui, c'est sûr, parce que l'État se désengage du financement d'à peu près tout, la culture, les services publics. Ben, elle est là, la contradiction, puis c'est un peu pour venir à ta question précédente. En tout cas, à mes yeux, là, c'est une analyse qui en vaut d'autres. Mais moi, mon sentiment, c'est que on va appeler ça l'État capitaliste, ne fera pas les changements seul, sans y être poussé. Sans y être poussé par la population, par tout un ensemble de contraintes, parce que, ben en ce moment, et depuis 50 ans, c'est un État qui est dans le business as usual. On poursuit des rêves qui nous font juste accélérer vers la catastrophe.
Et tu es en train de nous dire qu'ils ne vont pas le faire par eux-mêmes, le changement de paradigme radical, c'est ça?
Mais je ne veux pas juste jeter la pierre à des individus privilégiés.
Une culture, on va dire une culture de gens qui, pour eux... Là, justement, c'est le business casual, que c'est légitime de vouloir faire du profit, que moralement...
Ils y croient peut-être authentiquement et sincèrement, tu sais, que leur apport, leur contribution à la crise écologique, c'est de permettre d'innover, de développer de nouvelles technologies. C'est le technosolutionnisme. Mais le technosolutionnisme ne va pas résoudre le problème de la consommation de l'énergie, il ne va pas résoudre le problème de la destruction du territoire, de la pollution chimique. Les émissions de gaz à effet de serre continuent de monter. Bref, il y a juste la décroissance qui offre un scénario plausible. Mais c'est, la décroissance, c'est quelque chose qui bouscule tout le monde. Puis c'est là où je ne veux pas juste pointer une méchante élite qui est contre le peuple. Ce n'est pas ça du tout la vision que j'ai. Tout le monde bénéficie de la situation actuelle.
Ah, il y a un confort matériel et économique qui est encore majoritaire. Au Québec, ou en tout cas chez les Occidentaux, parce qu'on, si on fait un voyage dans le monde, c'est peut-être pas la même
chose. Donc, est-ce qu'on veut sacrifier un confort à court terme pour un avenir, pour une sécurité à plus long terme, qui semble toujours, parce que c'est à long terme, plus hypothétique, bien, tu sais, les gens continuent à élire ces gouvernements-là, à pas être dans la rue tous les jours. Tu sais, encore une fois, je reviens à Greta Thunberg, tu sais, qui se demande, mais... comment ça se fait qu'on n'est pas à chaque jour dans la rue jusqu'à temps que ce soit résolu, jusqu'à temps que les engagements soient pris, jusqu'à temps que les lois soient votées? C'est la chose la plus grave puis la plus urgente. Mais pourtant, c'est la première chose qu'on veut oublier, peut-être précisément pour ça.
Tu crois beaucoup à l'éducation. Tu es enseignant. J'aurais envie de te demander justement à quel point l'éducation, où on parlait juste simplement d'aborder la réalité de manière frontale, là, directement, est une solution ou est un apport qui devrait être peut-être plus important dans cette réalité-là.
Donc, comment l'éducation peut changer quelque
chose?
C'est
quoi ta position par rapport à ça? Comme où tu mettrais l'éducation là-dedans?
Un peu partout. Évidemment, on peut penser aux enfants, le contact concret avec la nature, apprendre des savoir-faire, apprendre à cultiver de la nourriture, au moins comprendre d'où vient la nourriture. Puis, ben ça va progressivement selon l'âge. Donc, moi, je pense qu'il faut la mettre partout, l'éducation, puis pas en faire seulement une éducation théorique, mais vraiment une éducation pratique. C'est une éducation aux vertus aussi. C'est une éducation à désamorcer les dynamiques de compétition puis d'individualisme où j'essaie de chercher mon propre confort de survivaliste personnel, et au contraire, essayer de s'engager dans de la collaboration, de la coopération, parce qu'il n'y a personne qui va se sauver tout seul. On doit se sauver ensemble. Mais c'est aussi une éducation des adultes. T'sais, quelqu'un comme moi, je te parlais tantôt des limites que moi j'atteins, dans ma prise de conscience, j'atteins une limite où je ne sais pas encore comment traduire ça dans une vie qui a du sens. Je continue à avoir une situation privilégiée. Je continue à travailler trop, à manquer de temps pour réfléchir aux choses les plus importantes, à être plus dispersé que diversifié dans mes compétences, donc, puis ça, c'est très difficile, tu sais. Ça se retrouve, par exemple, je ne sais pas comment voyager. Moi, le voyage m'a structuré dans ma vie. Mm. Ça a été fondamental pour moi de faire le tour du monde, d'aller rencontrer des cultures, j'ai appris d'autres langues.
C'est une forme d'éducation, même.
C'est une forme d'éducation. Mais, aujourd'hui... tu sais, je considère que j'ai plus le budget carbone pour faire ça. J'ai plus le droit. Fait que comment est-ce que je peux réinventer ma façon de voyager? C'est une question de riche, là. C'est une question de privilégié.
Oui et non. En tout cas.
Tu sais, mais c'est une question au moins que la classe moyenne et aisée, jusqu'à aisée, peut se poser. Mm-hmm. Mais j'ai des gens dans mon entourage qui, les vacances, ils n'en ont pas tant que ça. Puis... Mm-hmm. S'ils ont du temps, ils n'ont pas d'argent pour aller bien loin. Mm. Fait que, mais comment tout ça, comment réinventer sa vie, c'est une limite. C'est quelque chose de... Donc, l'éducation, c'est aussi ça. C'est de proposer aux adultes qui n'ont pas la chance d'être nés dans les préoccupations écologiques, qu'ils ont comme connues plus tard dans leur vie, d'apprendre ensemble à vivre autrement. Des modèles de vie qui sont pas énergivores, qui sont plus locaux,
ouais.
Qui sont plus relationnels que matériels.
J'ai comme envie de... quand tu parles, j'ai comme l'image de tes quatre étudiants que tu as fait quatre livres, tu as fait lire quatre livres différents puis qui jasent ensemble dedans. C'est pas un peu la même chose qu'on aurait besoin de faire en société aussi, qui est peu là. C'est beaucoup les médias qui alimentent l'espace public, nos médias sociaux à la limite, qui sont très peu personnels, en fait, qui nous... Il n'y a pas cette espèce de besoin de rencontre réelle, humaine, qui nous manque pour en arriver à cette volonté de vivre ensemble.
C'est certain, puis c'est pour ça que les tenants de la décroissance parlent de réduction du temps de travail, par exemple. C'est une des mesures fortes qui pourrait nous faire avancer, jumelée avec une offre réelle d'éducation aux adultes, une offre médiatique, une offre culturelle qui nous permet de réfléchir ensemble, le théâtre, l'art, tout ça, le cinéma. Il y en a beaucoup qui se fait déjà, tu sais. Mais avoir le temps d'aller les voir, avoir le temps d'en discuter ensuite avec nos proches, avoir le temps de s'occuper de nos proches, d'être en contact mm-hmm. quotidien avec la vulnérabilité. Parce que c'est ça le vivant aujourd'hui, c'est de la vulnérabilité. Alors qu'on pensait qu'on était enveloppé, en tout cas moi quand j'étais petit, je pensais que j'étais enveloppé par la bulle de protection du vivant. Aujourd'hui, je prends conscience du fait qu'en fait, je suis prédateur. Je dis « je ». L'humanité est en position de force, de domination, de façon importante par rapport à une grosse partie du vivant. Puis dans le vivant, on peut inclure du non-vivant, là, je veux dire, les cycles hydrologiques, les cycles du carbone, de l'azote, tout ça, c'est du non-vivant, mais c'est nécessaire au vivant, aux communautés, aux écosystèmes. Donc, oui, c'est ça, avoir du temps pour réinventer nos vies. Mais là, on travaille, on est encore dans une course un peu productiviste. Puis c'est ça que peut-être, c'est par là qu'il faudrait changer.
Parce qu'on fait face à énormément d'accélérations, là. La 5G, la 6G, tout ça, c'est toute une logique de toujours plus vite, mais ça va être le mouvement inverse, ça ne va pas nous donner plus de temps. Au contraire, on a toujours cette idée-là qu'il faut... avoir accès à le plus rapidement possible à plein de choses, mais pourquoi? Je pense que c'est la fameuse question que j'imagine qu'on doit se poser en philosophie, mais pourquoi? On ne se la pose pas beaucoup, non?
On se la pose quand on a le temps, on se la pose quand quelqu'un de significatif nous donne l'espace pour se la poser. Puis sinon, on s'active. On est plus dans l'activation que dans la sérénité. Mais être serein aujourd'hui, ce serait presque indécent.
Dans quel sens? Je comprends.
C'est un massacre. En ce moment, il y a un massacre qui a lieu et ce massacre-là n'a pas encore été stoppé. On n'a pas trouvé encore les manières d'arrêter ça. D'où la tristesse, tu sais. On ne peut pas être serein, mais il faut qu'on s'en occupe, ça, c'est sûr. Puis, on ne prend même pas le temps de s'en occuper. Là, on est à un niveau un peu de méta-réflexion, tu sais. Comment trouver le temps pour... se préoccuper des choses importantes.
Il y a des éléments dans notre vie qui nous éloignent de cette d'approcher nos émotions, notre vulnérabilité ou quoi que ce soit. Je pense aux écrans. Nombre de fois qu'on a eu des spécialistes nous avertir que ça, c'était un enjeu important. Même encore là, récemment, là, c'est le grand chroniqueur là, au Québec. Là, j'ai lu
Lagacé.
Lagacé, qui avait des bons papiers là-dessus. On est conditionné à aller vers quelque chose qui nous éloigne de tout ça. C'est du conditionnement. On est une espèce de qui se conditionne. Alors, le nombre de fois qu'on est appris à aller devant mes écrans, puis je suis le premier, là. Je m'exclus pas, là. Moi, je t'avoue, là, mes courriels, genre des lires, tu sais, il y a comme quelque chose qui est difficile. Il y a comme un deuil collectif qu'on a à faire, là, de technologie qui nous dessert, au final, par rapport à ce qu'on nomme de toucher à ces émotions, à cette vulnérabilité-là.
Ça nous isole. Ça nous éloigne des liens significatifs. Et puis, quand on s'isole, on se retrouve beaucoup plus en proie à des désirs de reconnaissance qui sont un petit peu mal réfléchis, peut-être. La consommation, par exemple, aujourd'hui, la consommation de positionnement, puis la consommation de compensation, c'est deux enjeux, deux fléaux réels pour les écosystèmes. Parce que ça extrait beaucoup de ressources. La consommation de positionnement, c'est la consommation qui permet d'affirmer mon statut social.
Ouais.
Ça répond à un besoin de reconnaissance. Donc, je veux me distinguer de quelqu'un d'autre en ayant une Audi plutôt qu'une Toyota. Mm. Ça, c'est quelque chose qui provient d'une volonté de faire du sens de mon identité dans une société qui participe du problème. Clairement, ça participe du problème parce que ça consomme des ressources, de l'énergie, et ça l'entretient. Ça normalise la course à la consommation parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a plus que nous. Mm. Puis la consommation de compensation, c'est lié à l'absence de temps pour se déposer puis se retrouver dans l'unité de puis la fidélité à nos valeurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec une fin de semaine? Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve après 6 mois de travail acharné avec 2 semaines de vacances?
Ouais.
Ben, on se paye la traite. Qu'est-ce qu'on fait à Noël? On se paye la traite. T'sais. Fait que ça permet vraiment de compenser pour des frustrations qu'on a accumulées dans une vie trop productive. Bon, ça, c'est deux types de consommation qui sont quand même conceptualisé puis théorisé par exemple, la sociologie de la consommation puis tout ça. Mais c'est certainement renforcé par la solitude puis l'isolement qu'induisent les écrans, la difficulté dans laquelle ça nous pousse à justement créer des liens significatifs, faire des rencontres, encore une fois, comme tu proposes de le faire ici.
Ouais, mais des rencontres humaines aussi bien réelles. Là. C'est ce que Patrick Lagacé relevait avec les études sur les écrans. Les écrans nous réduisent le temps passé dans le monde réel où est-ce qu'on apprend à exister avec l'autre. On apprend à créer du lien et autres, ce qui est quand même assez essentiel. Là. Dans ta classe, c'est un peu ça que je comprends que tu fais. Tu crées aussi du lien. Là. C'est essentiel là, pour que ces jeunes-là puissent se sentir vivants eux-mêmes dans ce qu'ils ont à affronter, je me trompe.
Les fois où j'ai réussi à le faire, parce que je ne veux pas non plus avoir un portrait trop rose.
Super-héros!
C'est ça, tu sais. Il y a des cours, moi aussi, je donne des cours magistraux, puis des fois, j'ai des séquences de cours magistraux. Puis,
on va avoir des plaintes des élèves demain. C'est genre, ça. C'est pas vrai qu'il est comme ça.
C'est-tu le même gars? Mais les fois où j'ai réussi à le faire, j'ai senti que c'était là où les étudiants et les étudiantes étaient le plus reconnaissant, disons, de ce que pouvait leur apporter un cours.
Okay.
Ça répond vraiment à un besoin, encore une fois.
Mm-hmm.
C'est difficile parce qu'en éducation, on a plein de contraintes, là, des devis, des plans cadres, des politiques, des ci, des ça. Fait que des fois, on réussit pas, puis en plus, on a le temps. On est surchargé, on est débordé, les corrections, les préparations, les réunions. Fait que des fois, on n'a pas le temps d'inventer un nouveau cours qui va être comme parfait, tu sais. Mais on aimerait ça.
Je nous amène ailleurs, bien, pas trop loin. Je t'ai envoyé hier l'article sur la pensée qui a été écrit. J'aurais aimé ça l'avoir parce qu'il aurait fallu le citer, la personne qui l'a écrite. Mm. C'était vraiment beau. C'était dans le Devoir, je me trompe?
C'était dans le Devoir, oui, la page ID.
Ouais, c'est... Je me rappelle pas du titre de l'article, mais ça parlait de notre relation à la pensée. Mm. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu? Moi, j'ai trouvé ça magnifique comme réflexion.
Là, on serait gentil de le citer. Là.
Je vais le mettre en référence assurément dans le balado.
Parfait. Mais moi, ce que j'ai retenu de cette prise de position-là, là, c'était dans la section « Idées du devoir ». C'est une réflexion sur l'intelligence artificielle puis sur comment, en fait, c'est une forme de pensée qui est extérieure, je dirais, qui est fonctionnaliste, qui est fonctionnelle. Les intelligences artificielles, les robots conversationnels, tout ça, cherchent des probabilités, cherchent des séquences de langage qui sont les plus probables associées à des prompts. Puis en ce sens-là, ils restent totalement extérieurs aux résultats qu'ils donnent. Donc, ils font juste comme associer des trucs en disant « ça marche, ça fonctionne, on le retrouve souvent ». L'auteur opposait à cette forme de pensée-là une forme de pensée qui était plus... le poids, il citait Alain, il disait « juger, c'est peser hein, ». C'est peser. Puis je trouve que c'est très juste ce qu'il dit, de dire que penser, c'est peser, c'est-à-dire c'est donner une certaine chaleur... Et ça revient aux émotions aussi. On ne pense pas sans émotion. Il faut qu'on... Ou on a besoin, je dirais, de donner ce poids, cette chaleur-là, la mémoire, quelque chose qui est une direction qui vient du cœur à nos pensées. Penser, ce n'est pas seulement...
Aller chercher l'information sur Google.
C'est ça qui parlait. C'est chercher à être fidèle à quelque chose en soi, en soi-même, à quelque chose qui cherche. Puis ce quelque chose-là, c'est un affect. Ça part d'un affect. L'affect qui fait qu'on clignote tout à coup. Il y a un vide, il y a un manque, il y a un négatif. Hein. Hegel dit que la pensée procède du négatif, c'est-à-dire de la compréhension que quelque chose ne marche pas dans l'objet, dans l'objet que je pense. L'objet est contradictoire en lui-même et c'est ma tâche comme personne qui pense d'essayer de résoudre cette contradiction-là, de réconcilier le monde avec lui-même, en fait. Puis penser, ça procède d'un profond désir de réconcilier le monde avec lui-même parce qu'en faisant ça, on se réconcilie nous-mêmes avec le monde, tu sais. Fait que oui, ça, on a besoin de nos affects, on a besoin de donner de la chaleur, on a besoin de mettre en jeu des expériences, une mémoire subjective. Je parlais avec ma copine récemment du fait que la mémoire crée complètement des faux souvenirs. J'ai envie de dire, pas grave. oui, tu sais, il faut aller valider la véracité de nos souvenirs, mais en même temps, ces souvenirs-là sont quand même la part subjective de la pensée, puis elle est nécessaire.
Oui. Est-ce qu'il y a quelque part aussi dans cet exercice-là de pensée qu'on est invité à faire dans l'article ou que tu invites toi-même, il n'y a pas quelque chose de devenir qui nous sommes? J'ai l'impression qu'il y a un rêve collectif aussi à se donner si on choisirait plus frontalement de dire « OK, bon, peux-tu chacun devenir qui on est? » Parce qu'on est tous uniques. Quelque part, on a comme quelque chose à amener au monde. Et j'ai l'impression, des fois, quand j'entends beaucoup le discours de liberté, qu'il y a comme une absence de cette valeur-là qui est « on peut-tu être libre de soi, d'exister, d'être complètement nous-mêmes puis d'être légitime au monde? » Mais pour ça, il faut se découvrir, il faut l'amener, il faut sous-peser le monde face à nous. Il y a quelque part dans cet exercice-là qui nous permet de devenir qui on est si on fait vraiment l'exercice d'effort de pensée, non?
C'est sûr. Tu le dis très bien, là. C'est un enjeu d'identité, c'est un enjeu de devenir ce qu'on est. C'est un enjeu de libération aussi, plus que de liberté. Peut-être que le mot « liberté » est des fois interprété de façon trop figée, comme un bien que j'ai, une propriété que je possède.
C'est ça.
Alors que la liberté, c'est un processus. C'est rien d'autre que le résultat d'une libération. De quoi doit-on se libérer aujourd'hui? C'est ça la question qu'on doit se poser. De quoi est-ce qu'on doit se libérer? Puis se poser cette question-là, c'est poser une question qui peut nous amener sur des diagnostics contradictoires sur la société.
Je
j'allais dire, j'allais aller vers le caractère très divisé, tu sais, des fois des débats publics. On le voit plus aux États-Unis qu'ici, mais même ici, on le voit quand on s'intéresse un petit peu au cercle d'extrême droite, à différents groupes. Je ne sais pas quelle réponse donner à ça, par contre. Tu sais, l'espace démocratique, l'espace d'échange, de délibération rationnelle est super important. Mais au-delà de ça, une certaine...
Je vais y aller avec quelque chose dans mon cours sur les États-Unis avec la magnifique Karine Prémont qui m'a enseigné, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Elle parlait de la polarisation, puis elle nous invitait à lire des documents, à écouter des... Moi, ce que ça m'a amené comme réflexion, c'est au final, être libre sans l'autre, c'est un piège. Parce que si on se fige dans des systèmes de pensée qui nous ferment aux autres, il y a une absence de compromis chez l'autre. Fait que la liberté, on la piège parce qu'elle n'est plus, elle n'inclut plus les autres. Elle reste entre nous. Et ça devient très violent comme rapport social au monde. Et ça, je trouve qu'il y a une forme d'indésirable. C'est indésirable. Fait, est-ce qu'on est vraiment libre si on affirme pleinement qui on est, si ça l'exclut complètement les autres? Parce qu'au final, on aboutit dans quel type de monde?
Mais on le voit en ce moment à Gaza. Un pays veut assurer sa sécurité, son identité, sa liberté en niant radicalement l'existence d'un autre peuple. Mais ça, c'est faux. C'est faux parce que Hegel a ça peut paraître complètement grotesque de citer Hegel après ce que je viens de dire, mais ça nous amène à, en tout cas, je vais rester sur ce qu'on observe à Israël, ça nous amène à des niveaux de violence qui sont des trahisons de nous-mêmes. Puis on le voit en particulier dans le cas d'Israël, qui est un État qui est né d'un drame, d'une catastrophe historique, d'un massacre au milieu du 20e siècle, et qui en ce moment en commet un, au nom de son droit d'exister. Mais Hegel, je vais revenir à Hegel, a une belle image, tu sais, dans la phénoménologie de l'esprit. Il dit on n'est jamais un maître pour un on n'est jamais un maître que pour un valet de chambre. Là, je le paraphrase, puis je le paraphrase mal, là, mais en gros, l'idée, c'est de dire que se faire, si on veut être libre, on veut être reconnu comme libre. Mais se faire reconnaître comme libre par quelqu'un qu'on ne reconnaît pas nous-mêmes, qu'on considère comme un inférieur, comme une personne qui a un statut distinct d'une autre, c'est pas satisfaisant. Je suis bien content quand ma petite fille ou mon petit gars de 4 ans me dit « Papa, t'es le meilleur, tu devrais être premier ministre. » Mais qu'est-ce que ça vaut?
Quand c'est un autre papa qu'est-ce que ça vaut? Dit, c'est différent.
Exact. Fait que
si la tu reconnaissance... reçois un prix de la société toute entière te disant « T'es le meilleur papa du Québec », c'est différent.
Fait que la reconnaissance, ça se passe entre égaux. De la même manière, la liberté, on n'est jamais libre seul. La liberté, c'est un projet collectif. Puis, dans le rapport à l'autre, il y a aussi de l'amour. Je ne sais pas si c'est quétaine ou trop chrétien de dire ça, mais tu sais, l'amour joue un rôle vraiment important. L'autre, le vivant, entre autres. Tu sais, la nature, les écosystèmes, on veut le faire par amour aussi. Puis on ne s'engage pas si on n'aime pas profondément. Puis quand on... Dans mon expérience de bifurcation puis de prise de conscience de citoyens ou de personnes concernées par les questions écologiques, me connecter à mon amour du vivant, ça a été une manière de m'aimer moi-même aussi, d'être fidèle à ce que j'avais de plus précieux en moi. Nier ça, juste comme être indifférent ou mettre un couvercle là-dessus, ça me donnerait une impression de vacuité, de vivre une vie vide. Puis, ben, j'en ai juste une.
Ah ouais. Prendre soin de du vivant, de la biodiversité, de nous, c'est quoi si c'est pas de l'amour? Quelque part, si on n'y met pas de l'amour, on y met quoi? Des fantasmes, je ne sais quoi, des vues de l'esprit, mais...
De la domination.
La domination.
Du pouvoir.
Besoin de reconnaissance.
L'éco-blanchiment. Aussi. Mais c'est pour ça que la réflexion sur la vie bonne, la vie vraie, elle est vraiment difficile à faire aujourd'hui parce qu'on peut se sentir seul alors qu'on ne l'est pas. Il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là, mais on n'a pas encore réussi à faire communauté parce que notre société est structurée d'une manière qui empêche la vie bonne profondément sur ces questions-là. Elle est structurée d'une manière qui nous impose de courir après des ressources juste pour se trouver un logement, pour avoir suffisamment de sous, pour avoir de la mobilité, parce que la mobilité est individualisée, puis ça nous prend une auto qui coûte trop cher, pour courir des soldes sur la nourriture qui est pleine de pesticides, parce qu'on n'est pas capable de se payer d'autre chose que ça. Puis de toute façon, tous les systèmes de distribution nous offrent ça. Fait que la société est structurée d'une manière qui est contradictoire avec des idéaux de vie bonne sur le plan écologique.
Mais le capitalisme, je voyais la racine du mot, c'est l'individu, c'est donner le pouvoir à l'individu d'aller chercher, de générer du capital. Puis dans l'individualisme, j'ai de la misère à coller ce que tu dis là comme vie bonne. Non? Si chacun voit le monde de manière très individualiste, ça doit être difficile d'avoir une volonté de vie bonne pour tous et toutes, je me trompe?
Oui et non. On peut penser qu'il y a différents degrés d'individualisme. Tu sais, la société démocratique est fondée sur le respect des droits des individus, mais elle ne s'en satisfait pas. Il y a aussi des droits créances.
Un individualiste de chacun pour soi. Un individualiste où est-ce que j'ai pas à vivre un inconfort intérieur de morale si quelque part c'est dans mes droits de faire ce que j'ai à faire, que je peux devenir qui j'ai à devenir tant que je respecte les normes, les lois. À la limite, il y en a qui le font pas, là. Mais cette espèce d'individualisme serait fermé de l'autre.
Sauf que quand les droits d'une majorité de la population sont rendus impossibles par l'absence de solidarité entre les individus, c'est là où on dépasse peut-être en tout cas une partie de l'individualisme, puis on va vers des droits plus collectifs, des droits qui nous demandent de développer ensemble des institutions qui travaillent pour le bien commun. Fait que l'individualisme n'a pas nécessairement le dernier mot si on s'attache de manière plus importante à la démocratie qu'à l'individualisme. Parce qu'ultimement, si on n'a pas de démocratie, qui est un régime qui est fondé sur un idéal d'égalité, si on la cultive plus, la démocratie, qui va vraiment bénéficier de son individualisme? Puis qui va en souffrir? Il y aura des gagnants, il y aura des perdants, puis il y aura beaucoup plus de perdants puis de perdantes que de gagnants.
Est-ce que tu t'inquiètes pour notre démocratie? Est-ce que tu y donnes...
Certainement.
Qu'est-ce que tu y mettrais un petit peu là, pour la rendre plus vivante?
C'est une bonne question. Si j'étais dans quelle position? Dans la position de prof,
j'en parle. Baguette magique.
Baguette magique. Mais une culture plus participative, certainement. Se libérer de l'idée que d'autres vont prendre les décisions puis faire les choses à notre place. Se libérer de l'idée que l'État représente de manière parfaite les intérêts, l'intérêt commun. S'éduquer aussi à l'économie politique, comprendre le rôle des lobbies, comprendre que des fois, les représentants ont besoin d'une petite push de la population. Soit un soutien, aller faire un petit tour des fois au conseil municipal pour appuyer les élus qui essaient de faire passer les affaires puis que c'est difficile. Ou soit, des fois, de l'opposition, c'est-à-dire de « non, ça ne passe pas ». T'sais, un autre projet de troisième lien, non,
ouais.
Ça ne passe pas.
Ouais.
Dire non.
Dire non. L'entrevue se termine, mon cher. On a abordé beaucoup de sujets qu'on ne s'attendait pas, ni toi, ni moi. Puis
on n'a rien abordé qu'on voulait aborder.
C'est magnifique. Mais je pense que notre auditoire va être très heureux de ce que tu as amené ici. C'est quoi les grandes questions que tu auras envie de laisser aux auditoires, que tu nous inviterais à nous poser, de garder en nous, de porter? T'aurais-tu envie de nous offrir quelques pistes de réflexion que tu diras, moi, je pense que je prendrais le temps de réfléchir à ça en ce moment. Tu nous en as offert des très belles là, tout au long de l'entrevue, là, mais s'il y en a d'autres, garde-toi, je t'ouvre la porte.
D'abord, si on se pose la question comment est-ce qu'on peut être certain ou quels sont les indicateurs qui nous permettent de savoir si on vit une vie écologique ou on prend les bonnes décisions, je dirais la première affaire, c'est d'écouter la science. Suivre le GIEC, suivre l'IBES. Comme tu l'as dit tantôt, les solutions existent. Avoir du courage, évidemment, être critique face à toute forme de discours qui nous amène dans une fuite en avant. On n'a plus le temps et on ne vit pas bien. On se trahit en faisant ça, en continuant la fuite en avant. Chercher à changer nos vies, se connecter aux autres, développer des liens, être connecté à son amour, à l'amour du vivant, à l'amour de soi, à l'amour des autres, prendre soin.
Hey, merci, Philippe. C'est vraiment magnifique. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour le temps que tu nous as accordé.
Merci beaucoup de l'invitation.
À la prochaine. J'espère que vous avez apprécié les échanges et les réflexions. Il me ferait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions pour que je puisse améliorer la qualité du balado. Vous pouvez me le communiquer via la page Facebook Juste pour vivre, mon LinkedIn ou sur Instagram. Profitez-en pour partager les entrevues que vous avez aimées et restez à l'affût. Une vingtaine d'épisodes sera mise en onde d'ici la fin de l'été. À bientôt!